nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. La ratification du traité de Lisbonne occupe le devant de la scène européenne durant toute l'année 2008. L'Europe s'est construite jusqu'ici par une succession de traités négociés par les États. Cette méthode a produit des résultats positifs et elle a permis des avancées réelles dans la construction européenne depuis plus de 50 ans. Alors, pourquoi un nouveau traité ? Pour répondre à quelques-unes des principales questions que vous vous posez au sujet du traité de Lisbonne, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Béatrice Lahorgue, maître de conférence à la faculté de droit de Poitiers, directeur de recherche, enseignante en droit communautaire et institutions européennes. Madame Lahorgue, bonjour.
Madame, bonjour.
Quel changement ce traité va-t-il apporter par rapport à la situation actuelle ? C'est une vaste question.
Vaste sujet, difficile à traiter en peu de temps. À noter à titre principal, le traité de Lisbonne apporte essentiellement des changements sur le sens même du projet historique européen et sur le fonctionnement des institutions européennes dans un cadre très élargi depuis le traité de Nice, puisque nous sommes passés de 10 États membres à 27 États membres. Par ailleurs, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que le traité de Lisbonne n'est plus là ou n'est plus une constitution européenne, celle qui a été non ratifiée par les Français par la voie du référendum précédemment et qui proposait d'abroger en fait l'ensemble des traités existants, des traités actuels, et de les remplacer par un texte unique qui avait véritablement vocation à revêtir une portée constitutionnelle. C'était d'ailleurs affirmé dans le texte de cette constitution. Le traité de Lisbonne, lui simplement, entre guillemets, se borne à modifier l'ensemble des traités existants, d'où son nom d'ailleurs de traité modificatif ou réformateur, qui explique aussi d'ailleurs très largement, à l'origine pourtant d'une polémique, mais qui explique très largement le choix de la ratification parlementaire dans la plupart des pays membres de l'Union européenne, dans la mesure où effectivement ce traité va prendre sa place très simplement en dessous de la Constitution française dans la hiérarchie des normes, qu'il ne vient pas bouleverser l'ensemble du fonctionnement des institutions européennes, mais qu'il vient apporter, réformer un certain nombre de dispositifs.
Mais vous avez utilisé l'expression « projet européen », mais finalement qu'entend-on par « projet européen » ?
Alors, j'ai utilisé ce terme de projet européen qui est bien sûr présent dans le traité de Lisbonne. Le vocable n'est pas de moi. Lorsqu'on lit dans le détail le traité, on peut dégager au moins quatre éléments qui posent le décor de ce projet européen. Tout d'abord, un préambule à ce traité. Préambule qui précise... Et c'est une nouveauté que la construction européenne s'inspire d'héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. On a perdu le vocable chrétien antérieur, on a resitué les choses dans un contexte beaucoup plus large, dans le contexte des valeurs universelles de l'Europe qui constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la démocratie, la liberté et l'état de droit. Cette mention des héritages communs européens va dans le sens de l'affirmation d'une identité européenne, qui est aussi une innovation dans ce traité de Maastricht, de Lisbonne, pardon, lapsus révélateur, parce qu'on trouvait citoyenneté européenne dans Maastricht. Là, on trouve identité européenne.
Deuxième... Donc ça, c'est dans le préambule. Après.
Ça, c'est dans le préambule. Et puis, immédiatement, pour affirmer cette identité européenne, on a la charte des droits fondamentaux qu'on trouve ici, qui avait été proclamée lors du Conseil de Nice, mais qui reçoit dans le traité de Lisbonne une valeur contraignante, à savoir que la Cour de justice des communautés européennes contrôlera son respect non seulement par les institutions de l'Union, mais contrôlera aussi son respect lors de sa mise en œuvre par les États membres dans le cadre de leurs droits internes. Le traité de Lisbonne prévoit d'ailleurs, dans cette logique, l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Cette adhésion devra être décidée par le Conseil, à l'unanimité bien sûr, approuvée par le Parlement européen, seule institution élue au suffrage universel direct, et ratifiée par des lois de ratification par chaque Parlement national. Et puis, autre élément, les objectifs aussi de l'Union européenne sont fixés dans le traité de Lisbonne. En tout cas, ils sont définis en des termes suffisamment larges pour qu'émerge effectivement un projet commun européen. Alors, on trouve par exemple des termes comme économie sociale de marché, lutte contre l'exclusion sociale, respect de la diversité culturelle, protection des citoyens de l'Union, un ensemble d'éléments qui font qu'effectivement, on va dégager des identités européennes à travers des projets et des axes communs. Et puis, une innovation aussi, à travers ce projet européen, nous y reviendrons sans doute ultérieurement, c'est une procédure aussi de retrait volontaire de l'Union européenne qui est introduite à travers son nouvel article 35.
Qui n'existait pas avant.
Ça n'existait pas du tout. C'était un vide juridique que cette disposition dans le cadre de la construction de l'Europe depuis 50 ans. Pour la première fois, on prévoit qu'un État peut se retirer. L'avantage, bien évidemment, c'est de replacer finalement le débat de l'Europe dans le débat de la souveraineté nationale et de l'adhésion volontaire de chaque État à l'Union européenne.
Alors ce traité de Lisbonne, il apporte aussi, et c'est là l'essentiel, d'importants changements dans le domaine institutionnel, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Quelles sont donc les avancées essentielles dans ce domaine ?
Alors, les avancées essentielles, lorsqu'on étudie avec, dans le détail, je dirais, le traité de Lisbonne, sont au nombre de 8, principalement. Tout d'abord, je crois, l'essentiel, alors pour des auditeurs non juristes, cela va paraître quelque peu difficile à appréhender, mais il faut quand même l'imaginer parce que c'est vraiment l'élément le plus important dont tout le reste va découler. L'Union européenne est dorénavant dotée de la personnalité juridique. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne avait, je dirais, valeur d'organisation internationale à portée régionale. Aujourd'hui, elle est dotée de la personnalité juridique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme tout État, elle va pouvoir négocier, ratifier des traités, des accords internationaux. Elle va pouvoir, de façon plus exemplaire, à mon avis, adhérer à une organisation internationale, au premier rang desquels l'ONU, puisqu'un certain nombre de dispositions dans le traité de Lisbonne concernent le maintien de la paix, etc. Ce qui signifie qu'elle va pouvoir, très rapidement, dès la ratification complète du traité de Lisbonne, solliciter son entrée au sein de l'Organisation des Nations Unies, avec l'ensemble des conséquences que cela peut avoir sur la réforme, la révision du fonctionnement des institutions de cette organisation internationale qu'est l'ONU, puisque pourquoi demain il n'y aurait-il pas de représentation au sein du Conseil de sécurité comme membre permanent de l'Union européenne plutôt que seulement de la France et de la Grande-Bretagne. Donc la dotée de la personnalité juridique est quelque chose vraiment d'essentiel et qui va bouleverser un certain nombre de choses au niveau international.
Et faciliter aussi, avancer, permettre de bouger certaines blocages.
Oui, et en particulier, très certainement, en tout cas c'est l'objectif du traité, permettre de faire, de construire une véritable politique étrangère, internationale, européenne. Alors, si cette Union européenne a la personnalité juridique, il va y avoir évidemment deux grands changements derrière, qui sont les deux autres avancées essentielles du traité. C'est qu'il faut, je dirais, un individu pour représenter cette personnalité juridique. Et c'est une innovation majeure du traité de Lisbonne que de doter le Conseil européen, qui est l'actuel Conseil européen regroupant les chefs d'État et de gouvernement, hein, parce qu'il y a un problème de vocabulaire sur lequel il faut être très, très attentif. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement au sommet. C'est cette institution qui donne le mouvement, l'inspiration politique, les grandes orientations stratégiques à l'Union européenne. Ce Conseil européen va être doté d'une présidence stable.
Donc un président qui sera élu comme un chef d'État.
Qui sera élu ? Alors comme un chef d'État, non, parce qu'il ne sera pas élu au suffrage universel direct.
Espérons.
Mais il sera élu en tout cas à la majorité qualifiée par le Conseil européen, donc effectivement par cet ensemble de chefs d'État et de gouvernement, pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable une fois, soit l'équivalent d'un quinquennat, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas encore précisé la procédure, j'ai envie de dire, d'appel à candidature et la procédure qui permet de retenir les candidats. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne peut pas être chef d'État en exercice, mais la procédure pour choisir cet homme ou cette femme n'est pas actuellement précisé, hormis donc son mode d'élection.
Alors, autre avancée, voilà, venons d'en examiner deux.
Mais... Autre avancée, bah, c'est de doter aussi cette Union européenne d'un représentant au niveau international. Ce point a été extrêmement contesté lors des débats sur le traité de Lisbonne. Et puis finalement, le traité a bien retenu la nomination d'un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, on peut l'appeler comme ça, même si dans le texte, il s'appelle « haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ». Le traité nous dit bien qu'il est internationalement reconnu et qu'il présidera le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Son objectif étant, bien évidemment, de faire progresser la politique étrangère commune.
Ça, c'est un point, en effet, extrêmement important. Autre point, puisque on en a annoncé 8, on en a
Alors, les autres points concernent essentiellement les institutions. Mm-hmm. En particulier, bien évidemment, l'institution la plus vivement critiquée tout au long de cette histoire de l'Union européenne, qui est la Commission européenne. Commission européenne qui va connaître l'abandon de la règle qui était celle jusqu'à aujourd'hui de un État, un commissaire. Aujourd'hui, il y a 27 États membres dans l'Union européenne, 27 commissaires européens. Cette règle, dans un souci de simplification, bien sûr, va être abandonnée. Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la première commission qui sera investie en 2009 jusqu'en 2014 continuera d'avoir 27
Donc,
commissaires.
Un commissaire par État.
Voilà, jusqu'en 2014, comme c'est le cas aujourd'hui. Et à partir de 2014, donc pour la deuxième mandature, le nombre de commissaires correspondra simplement aux 2/3 des États membres. Si nous sommes toujours 27 en 2014, cela fera donc 18 commissaires pour la Commission européenne. Les membres seront bien évidemment sélectionnés selon un système de rotation égalitaire, comme ça fonctionne dans d'autres organisations internationales, Assemblée générale par exemple, Conseil de sécurité des Nations unies. Ce qui reste pour la Commission européenne, en revanche, et qui n'a pas été modifié dans le traité de Lisbonne, c'est sa vocation à être l'institution qui a le monopole de l'initiative législative. C'est fort mal connu de nos concitoyens. C'est la Commission européenne qui a aujourd'hui et qui conservera pour demain le monopole de l'initiative des lois, de proposer les lois au Conseil des ministres et au Parlement européen.
Alors, autre instance extrêmement importante, le Parlement, justement, européen, comment sera-t-il élu, lui ?
Toujours au suffrage universel direct. Mmh. Et il voit son rôle devenir encore plus influent, sans doute parce que c'est aussi la seule institution élue au suffrage universel direct. Ses pouvoirs vont être renforcés tant dans le domaine législatif que budgétaire, que de contrôle des institutions, puisqu'il dispose d'un pouvoir de contrôle sur les institutions. Et point essentiel qu'on ne peut pas développer ici, mais qui est à noter pour nos amis juristes, c'est qu'il y a une extension de la procédure commune d'adoption des lois en Europe, qu'on appelle la procédure de codécision législative, à plus de 50 nouveaux domaines. Donc le Parlement va légiférer sur la base de cette procédure d'adoption des lois dans plus de 50 nouveaux domaines. Et dans cette procédure de co-décision, ce qui n'était pas véritablement le cas aujourd'hui, le Parlement va être doté des mêmes pouvoirs que le Conseil des ministres de l'Union européenne, avec un système de navette, un peu à l'instar de la procédure législative française, ce qui permettra en particulier au Parlement européen d'être doté de nouveaux pouvoirs législatifs, qui relevait jusqu'à maintenant davantage du Conseil des ministres ou de la Commission, par exemple. Je pense en particulier au contrôle des personnes aux frontières, sur lequel il va pouvoir légiférer, aux dispositions régissant l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile, ou à la lutte, par exemple, contre l'immigration clandestine.
Avec Marie-Béatrice Lahorgue, nous examinons le traité de Lisbonne. On se retrouve dans un court instant.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert où jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kans.
Retour dans notre studio en compagnie de Marie-Béatrice Lahorgue, maître de conférence à la faculté de droit de Poitiers et surtout enseignante en droit communautaire et institutions européennes. Et avec elle, nous examinons les avancées apportées par le traité de Lisbonne. Alors, nous en avons examiné déjà 5 avancées, nous en étions à la 6e.
La 6e, puisque nous avons parlé donc de la personnalité juridique de l'Union européenne, des institutions, bien évidemment, il nous faut parler, et c'est la 6e avancée, du contenu. Et donc, obligatoirement, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. C'est là aussi un apport essentiel, une avancée, je ne sais pas, en tout cas un apport essentiel du traité de Lisbonne, que de définir de façon plus complète que dans le traité de Maastricht, par exemple, de 1992, les compétences respectives entre l'Union européenne et les États membres. Et on sait que c'est un sujet extrêmement sensible.
Sensible, bien sûr. L'Europe se mêle de tout, on l'entend
L'Europe
dire.
L'Europe se mêle de tout. Il est vrai que la ratification du traité de Maastricht par voie de référendum en 1992 avait donné 50,5 pour, 49,5 contre. On a vu que les Français et les Néerlandais se sont prononcés contre, par voie de référendum, le projet de Constitution européenne précédemment. Et au cœur de ces rejets, souvent, le problème, justement, que vous venez de souligner, de l'Europe se mêle de tout. Le traité de Lisbonne, il a tenté, justement, d'éviter, il permet d'éviter que l'Europe ne se mêle de tout, en précisant que l'Union dispose de compétences qui sont très précisément défini dans le traité. J'invite nos auditeurs à aller lire ce traité de Lisbonne. L'Union dispose donc de compétences que les États lui attribuent expressément dans le traité de Lisbonne. C'est ce qu'on appelle, pour nos auditeurs juristes, le principe d'attribution qui garantit que l'Union européenne ne pourra pas étendre ses compétences aux dépens de celles des États sans leur accord. Alors, le traité prévoit en fait, de façon très, très simple, 3 compétences, 3 formes de répartition de compétences.
Alors, quelles sont ces compétences alors ?
Alors, tout d'abord, les compétences exclusivement dévolues à l'Union européenne, ce qu'on appelle les compétences dites exclusives, des domaines dans lesquels l'Union européenne va légiférer seule, par le biais du Parlement européen, du Conseil des ministres, bien évidemment, et de la Commission, mais sans consultation, je dirais, des parlements nationaux et des États membres, au-delà du triangle institutionnel européen.
Alors, quelques exemples.
Alors, l'union douanière, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États membres de la zone euro, bien évidemment, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commerciale commune, par exemple, et puis un certain nombre d'hypothèses, de conclusions, d'accords internationaux, lorsque cette conclusion est prévue par un acte législatif de l'Union européenne. Voilà. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais pour illustrer quelques exemples de ces compétences dites exclusives.
Exclusives. Après, il y en a d'autres qui sont partagées.
Alors, il y en a d'autres.
Entre guillemets, parce qu'on les appelle comme cela.
On les appelle comme ça dans le traité de Lisbonne, les compétences dites partagées entre l'Union européenne et les États membres. Il s'agit de compétences que les États pourront exercer dans la mesure où l'Union n'aura pas exercé sa compétence dans ce domaine. Voilà pourquoi on dit qu'elles sont partagées. Alors, on a par exemple le marché intérieur, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'environnement, l'agriculture et la pêche. Attention, à l'exclusion
de ce qu'on a dit précédemment.
De ce qu'on a dit précédemment sur la conservation des ressources biologiques, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité, de justice, recherche, développement technologique, coopération, développement et aide humanitaire. Il y a comme cela un certain nombre de domaines très importants. Transport aussi, bien évidemment.
Et la santé, parce que la santé publique européenne, peut-être ?
Oui, la santé, nous verrons tout à l'heure que cela relève davantage des domaines réservés à l'État sur certaines questions liées au social, mais un certain nombre de domaines sont effectivement partagés ici en la matière.
Donc, il y a encore des compétences qui, elles, alors, ne sont que dépendantes des États.
Mais oui, il reste quand même un
quand
champ...
Quand même, il leur laisse un peu de liberté.
Oui, oui, il leur laisse un peu de liberté, de compétences en tout cas, puisqu'un certain nombre de domaines, évidemment, demeurent totalement dans le champ de la souveraineté nationale. Mais l'Union pourra tout de même, dans ces domaines, apporter ce qu'on appelle des actions d'appui ou de coordination. Ça exclut vraiment ce qu'on appelle l'harmonisation. C'est de l'appui ou de la coordination. Protection et amélioration de la santé humaine. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on le disait, justement.
Voilà,
Donc, c'est plus au titre d'appui, la santé humaine.
D'accord.
Mais la santé relève bien des États. L'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, la formation professionnelle, jeunesse et sport, protection civile, coopération administrative. Alors, ce qu'il faut peut-être tout de suite préciser, quitte à ne pas... à ne pas y revenir tout à l'heure, c'est que le traité de Lisbonne, par rapport aux autres traités, ne donne pas de nouvelles compétences exclusives à l'Union européenne. La liste des compétences exclusives dont nous avons parlé en premier reste du même ordre, de grandeur.
Pas élargie.
Ça n'a pas élargi
les compétences exclusives.
On ne peut pas dire qu'il y ait de nouvelles compétences exclusives dévolues à l'Union européenne. En revanche, le traité de Lisbonne, effectivement, donne à l'Union européenne un certain nombre de nouvelles compétences qui entrent dans les compétences dites partagées. Par exemple, antérieurement, on ne trouvait pas l'espace ou l'énergie dans ces compétences dites partagées, qui étaient plutôt dévolues essentiellement aux États. Et on trouve aussi de nouveaux domaines au titre des actions dites d'appui ou de coordination. Par exemple, on n'avait pas précédemment la protection civile, la propriété intellectuelle ou la sécurité ou le tourisme, par exemple.
Alors, pour les questions militaires dont vous n'avez pas parlé, comment cela se passe-t-il? La sécurité, la défense, à quel champ de compétences appartiennent ces questions?
Alors, domaine très sensible.
Et oui.
Que ces questions, bien évidemment. La politique étrangère de sécurité commune et de défense bénéficie dans le traité de Lisbonne d'un régime spécifique. Le traité de Lisbonne pose des avancées réelles. D'ailleurs, c'est le traité qui coordonne, qui pose, qui définit, qui construit ce qu'on appelle la défense européenne. Il introduit un certain nombre de clauses très précises qui structurent véritablement pour la première fois au niveau européen une politique de sécurité commune et de défense.
D'aucuns se plaignaient qu'elle n'existât pas d'ailleurs. Donc,
j'espère
le moment de la créer.
En particulier, on trouve un certain nombre de nouveaux éléments comme la clause de défense mutuelle qui veut, un peu à l'instar de ce qui se passe pour l'OTAN, que si l'un des États membres de l'Union européenne fait l'objet d'une agression, les autres ont le devoir d'assistance à son égard. On trouve aussi ce qu'on appelle une clause de solidarité nouvelle qui assigne à l'Union et à chaque État membre de porter assistance par tous les moyens à un État membre touché soit par une catastrophe d'origine naturelle ou humaine, ou aussi par une attaque terroriste. Cette notion de terrorisme, depuis les événements du 11 septembre, trouve sa place et est intégrée dans les nouveaux outils conventionnels internationaux, d'ailleurs, qu'ils relèvent de l'Union européenne ou d'autres champs internationaux.
Donc l'Union aura maintenant des moyens de lutte contre le terrorisme qu'elle a précisé dans ce traité de Lisbonne?
Oui, elle va en tout cas se doter de ces moyens financiers, de concertation et matériels. Possibilité de l'Union d'intervenir non seulement d'ailleurs dans les domaines touchant à la lutte contre le terrorisme, mais aussi aux missions de prévention des conflits en son champ régional. Les missions de stabilisation post-conflit aussi, un certain nombre de choses de cet ordre. Et puis, important aussi, le traité de Lisbonne introduit la notion de coopération structurée permanente, ouverte aux États et aux seuls États qui participeront activement aux principaux programmes européens d'équipement militaire et qui fourniront des unités de combat immédiatement disponibles pour l'Union européenne, en particulier, nous dit le traité, pour répondre aux demandes de maintien de la paix, consolidation ou rétablissement de la paix dans le cadre de la Charte des Nations Unies.
Alors, vous l'avez dit, on ne peut pas dire que le traité de Lisbonne octroie de nouvelles compétences exclusives à l'Union. Ce traité de Lisbonne donne-t-il un renforcement de la démocratie, à la fois représentative et de la démocratie participative? De ce point de vue-là, que peut-on dire?
Très clairement, il y a des avancées dans le traité de Lisbonne en matière de démocratie représentative. Je pense en particulier, bien évidemment, au rôle du Parlement européen, qui est largement renforcé, mais je pense aussi à la place, à la nouvelle place que vont occuper les parlements nationaux, puisque le traité de Lisbonne prévoit dorénavant que les parlements nationaux pourront contrôler l'application du principe de subsidiarité. Alors, le principe de subsidiarité, c'est un principe relativement complexe qui a été posé et défini au traité de Maastricht en 1992, qui était le traité portant sur l'Union européenne, donc le traité qui a créé l'euro, qui a aussi fait passer l'Europe de la Communauté économique européenne à l'Union européenne, et qui a aussi posé le premier, le principe de répartition de compétences entre l'Union européenne et les États membres. Pour organiser ces compétences, le traité de Maastricht a inventé, a posé, a défini un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité, qui dit quoi ? Très très simplement, parce que sa définition est longue et complexe dans le traité, mais très simplement, ce principe nous dit « La communauté va agir dans les limites des compétences qui lui sont conférées et dans les limites des objectifs qui lui sont assignés. Dans les domaines qui ne relèveraient pas de sa compétence exclusive, l'Europe pourra finalement intervenir, c'est ça que nous dit le principe de subsidiarité, que si elle le fait mieux que les États membres à leur place et pour l'intérêt général. Cette démocratie représentative, elle est bien évidemment renforcée indéniablement dans le traité de Lisbonne. Et puis, innovation, là, en revanche, effet de mode, nous dirons d'autres, on pose aussi... Alors, est-ce que c'est une contradiction ou est-ce que c'est une logique? Ça, seule l'expérience européenne nous le dira. Mais le traité de Lisbonne pose aussi des nouvelles formes de la démocratie participative. Alors, dont on a peu l'habitude dans nos démocraties, dont on avait peu l'habitude dans l'Union européenne. Je pense en particulier à la création d'un droit d'initiative citoyenne qui permet à des citoyens européens, dès lors qu'ils réuniraient 1 million de signatures au moins, provenant d'un nombre significatif d'États, de demander à la Commission de proposer un projet de loi sur un sujet qui émanerait de cette pétition citoyenne. Le Conseil des ministres, par exemple, siégera en public lorsqu'il délibère et vote la législation européenne, si bien qu'effectivement, la transparence et la publicité des travaux du Conseil devrait, à travers en particulier le rôle des médias, faciliter la participation de la société civile.
Et les associations ont-elles aussi une voix un peu importante qui va être écoutée?
Alors, les associations auront une voix plus importante, que ce soit en matière environnementale, par exemple, puisqu'elles pourront effectivement présenter un certain nombre de pétitions ou de demandes à la Commission européenne. En matière sociale aussi, le dialogue est affirmé, avec la reconnaissance de différentes possibilités de consultation des partenaires sociaux européens dans ce qu'on appelle, dans ce que le traité de Lisbonne appelle le sommet social tripartite, par exemple. Voilà un certain nombre de formes, effectivement, que pourra prendre la démocratie participative.
En tout cas, on voit qu'il y a des nouveautés, effectivement. Quelle place va alors occuper dans ce nouveau contexte les parlements nationaux? Parce que c'est toujours le problème.
Alors, les parlements nationaux, on l'a un tout petit peu évoqué à l'instant, pourront effectivement participer davantage, en particulier, c'est essentiellement leur rôle d'ailleurs, à travers ce contrôle de l'application du principe de subsidiarité, en intervenant à un moment donné auprès de la Commission européenne, lorsqu'un tiers des parlements nationaux, par exemple, ont adressé un avis motivé, l'Union européenne aura l'obligation de les écouter, de reprendre le texte et de le retravailler. Après l'adoption d'un texte de loi aussi, il faut savoir que la Cour de justice des communautés européennes, c'est une innovation, peut être saisie par un État membre d'un recours pour violation du principe de subsidiarité émanant d'un Parlement national ou d'une chambre de celui-ci.
Est-ce que tout cela n'introduit pas des règles de plus en plus complexes tout de même qui vont faire que les choses vont aller plus difficilement ou plus lentement ? Notamment, les nouvelles lois vont mettre beaucoup de temps ou...
Alors, il est clair que lorsqu'on examine dans sa totalité la procédure législative, en particulier de codécision, et qu'on additionne l'ensemble des délais prévus pour l'adoption d'un texte, les délais varient de 15 à 24 mois. Très clairement, si vous ajoutez en plus les délais pour le contrôle des parlements nationaux sur le principe de subsidiarité, il est clair que les choses vont prendre en complexité et en longueur. Ceci dit, le nouveau système est certes plus complexe, mais il est aussi plus démocratique, puisque les États membres, à travers leurs parlements nationaux et le nouveau fonctionnement d'un certain nombre d'institutions, présidence stable du Conseil européen, Conseil des ministres, etc., vont pouvoir plus largement participer. Et aussi un nouveau système qui sera plus efficace dans sa prise de décision en évitant ce qu'on voit dans d'autres organisations internationales, c'est-à-dire des minorités de blocage, des statu quo qui ne permettent pas la prise de décision.
Alors, comment le traité de Lisbonne intègre-t-il une réflexion qui est toujours délicate et qui concerne tout de même tous les citoyens, c'est-à-dire cette politique d'élargissement ? On est déjà 27 dans l'Europe. Comment le traité de Lisbonne envisage-t-il un éventuel élargissement, oui ou non ?
Alors, l'éventuel élargissement, oui, bien sûr, puisque c'est l'objet même du traité de Lisbonne. D'ailleurs, c'est l'objet même de toute la politique européenne depuis le traité de Nice. C'est d'élargir, bien évidemment, l'Union européenne. Ce qui est prévu dans Lisbonne, qui a intégré cette réflexion, bien évidemment, c'est un certain nombre de critères, même si le traité ne cite pas explicitement les conditions d'adhésion, il y fait simplement référence. On a effectivement précisé un certain nombre de dispositions qui peuvent permettre à un nouvel État membre d'entrer et aussi un État membre de sortir. Alors, les conditions, par exemple, sont reprises d'ailleurs des traités existants, en particulier de Nice. Il y a bien sûr un critère politique, présence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, de façon plus générale l'abolition de la peine de mort par exemple. Le critère économique, bien évidemment, l'existence d'une économie de marché viable et la capacité du nouvel État membre à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union européenne. Et puis ce qu'on appelle le critère de l'acquis communautaire, qui est repris aussi, qui est l'aptitude du nouvel État à assumer par la suite toutes les obligations qui découlent de l'adhésion, et notamment à souscrire à l'ensemble des objectifs précisés en préambule de ce traité de Lisbonne.
Toujours la référence à ces valeurs de l'Union européenne, respect de la dignité humaine, liberté, égalité, etc. Oui. Alors, vous disiez que certains pays, effectivement, pouvaient se retirer, mais peut-on aussi les exclure ?
Alors, en tant que tel, il n'y a rien sur l'exclusion. En revanche, il y a aujourd'hui, ce qui n'était pas précisé jusqu'à maintenant, une clause de retrait de l'Union européenne. Sachant que c'est une nouveauté, que la seule chose qui est réellement prévue, c'est que l'État dispose d'un délai de 2 ans pendant lequel il peut négocier un accord avec l'Union européenne, accord qui lui permettrait, par exemple, de conserver des échanges commerciaux privilégiés, bénéficier de la libre circulation des personnes ou des marchandises, un certain nombre de choses qui pourraient être négociées entre l'Union européenne et cet État. Si un État sollicitait son retrait, c'est le Conseil qui statuera à la majorité qualifiée, après une approbation du Parlement européen. Et bien évidemment, on prévoit aussi que si un État a quitté l'Union européenne et qu'il souhaite l'intégrer à nouveau, il peut faire une nouvelle demande d'adhésion sous la réserve de respecter à nouveau les critères d'adhésion à l'Union européenne.
Marie-Béatrice Lahorgue, merci de nous avoir éclairé. C'était effectivement un vaste sujet, comme vous l'avez dit en commençant cette émission. Merci de nous avoir éclairé sur ce traité de Lisbonne. On mesure, grâce à vos propos, à la fois les avancées et tout l'enjeu qu'il y a derrière pour l'Europe. Merci beaucoup.
Merci à vous.